Bienvenue dans le processus talk. Le mec se lève, il en a rien à faire.
Ah, il fait froid un peu.
On est dans un épisode où on se caille, on va pas se mentir. Mais on le fait quand même parce que c'est ça le processus talk. De quoi on parle aujourd'hui, Jenny ?
Aujourd'hui, on parle que le dernier podcast qui est sorti, c'est le podcast avec notre invité surprise de base, qui était Kevin Ferreira, qui est Swiss Fit. On espère qu'il vous aura plu ce podcast quand même.
Ouais, on espère parce que...
Partagez-le, faites-nous vos retours.
Ouais, de ouf.
Mais c'était une expérience de dingue pour nous au niveau de la discussion qu'on a eue avec lui. Et on espérera que vous aurez kiffé et que ça vous aura appris pas mal de choses sur les blessures quand même.
Et puis honnêtement, on n'est pas à l'abri qu'un jour il y ait un autre épisode avec lui, tu vois.
Bah...
Au vu des retours qu'il nous a fait quand même. Il y a moyen que... D'ailleurs, petit aparté, la prochaine fois, on peut aller filmer là-haut.
Oui.
La
oui,
montagne
oui.
En face. Le Grand Colombier.
Le Grand Colombier.
Absolument.
Pour ceux qui veulent venir visiter les lieux où on tourne. Petit aparté sur le testing articulaire. Il nous reste toujours des places pour le testing articulaire pour ceux qui veulent. D'ailleurs, on l'a pas dit la dernière fois, mais Kevin Ferreira, K-Swiss Fit, est la personne qui nous a formé au testing articulaire.
En partie, ouais.
On lui a montré notre testing articulaire.
Il a kiffé.
Il veut qu'on lui envoie le fichier sur lequel on a travaillé pendant à peu près une semaine.
Ouais.
Si ce n'est plus.
Ouais, si ce n'est plus. Ouais.
Enfin bref.
Petit instant à promo quand même. Donc, on a parlé des testings. Moi, j'ai toujours quelques places en coaching en ligne. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu veux. Si tu commences à stagner dans tes performances et puis que tu veux, continuer de progresser, assurer ta longévité. Moi, je t'accompagnerai là-dessus via la mobilité, l'entraînement articulaire. Et puis, si tu as besoin de faire un testing aussi en distanciel, c'est possible. Donc, contacte-moi pour ça. Et puis toi, Gianni ?
Moi, c'est sur tout ce qui est programmation pour les sports d'endurance, trail, running, vélo, cycliste. La saison de ski, de rando, ski d'alpi commence à s'éteindre progressivement, donc voilà.
Regarde la neige autour de
Mais, il y en a beaucoup. Hein. Mais, la saison des courses pour les sports d'été va bientôt arriver, donc c'est le moment de se préparer. Donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin. Et il nous reste une place de coaching
en collaboration.
Voilà, en collab.
Sport d'endurance et préparation physique pour ce sport d'endurance.
Distanciel ou présentiel sur Genève, Haute-Savoie, Savoie. Il nous reste une place de coaching, donc c'est la tienne.
c'est la tienne.
Aujourd'hui, on va parler des data, des outils de mesure pour ces data et de l'interprétation de ces données que tu peux avoir. Parce qu'il y a plein d'outils sur le marché, il y a plein de données différentes, il y a plein de choses, ça caille, mec, j'ai froid.
J'ai vraiment froid.
Il y a plein de data différentes.
On est désolé si on renie.
Plein d'outils différents, mais on ne sait pas forcément comment les utiliser. Donc c'est simple, on a fait une liste, et on va prendre chaque outil.
Non exhaustive. Une liste non exhaustive.
Non exhaustive, c'est important.
C'est bon.
C'est pas une liste.
C'est bon, tu sais ce que ça veut dire exhaustive.
C'est pas une liste. C'est une liste non exhaustive.
Non exhaustive.
Non exhaustive.
Quand tu dis que quelque chose est exhaustif, c'est dire que c'est complet. Donc ça veut dire que
on n'a pas tout listé. Ah bah oui, évidemment, mais
parce que déjà on connaît pas tout vu parce que le podcast.
Quelle aberration de le dire, dirais-je.
Donc déjà, commençons simple. La fréquence cardiaque, les montres.
Non, mais on va prendre la trame qu'on a fait.
C'est ce qu'il y a tout en haut.
Oui, tout en haut. Mais parce qu'on va commencer un peu plus sur les outils et les data pour les sports d'endurance, parce qu'il y en a plus que dans la préparation physique. Même s'il y en a pas mal dans la préparation physique.
En tout cas, je dirais que c'est déjà une pratique où même chez les pratiquants, tout le monde a son outil de mesure. Tout le monde a sa montre GPS cardio. Tout le monde a son cardio fréquence mètre en ceinture, je veux dire. Donc, je dirais que déjà, c'est un truc où, dans les pratiquants, il y a du matos de mesure.
Bah ouais, en fait, c'est que c'est beaucoup plus répandu. C'est beaucoup plus utilisé par le pratiquant lambda. sans forcément aller dans le haut niveau. Enfin bon, on commence tout de suite. Premier outil de mesure, les montres GPS avec capteur de fréquence cardiaque intégré. Oui, 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 monsieur, vous avez bien entendu.
Elle fait le café et elle... Bon, alors, toi qui es spécialiste, est-ce que tu peux nous donner ton avis?
Alors, je vais être franc là-dessus parce que ça m'énerve un petit peu, ce sujet est encore mal compris par la plupart des utilisateurs de ces montres.
C'est vrai que je te sens énervé là.
Non, en fait, c'est pas un énervement, c'est juste aussi c'est qu'il y a de l'incompréhension et que les gens sont mal sensibilisés à cause du marketing, en fait. Ouais, du marketing. En gros, si vous voulez, les marques vous vendent que vous avez un capteur intégré à vos montres qui va prendre ta fréquence cardiaque. Ça prend la fréquence cardiaque à plus ou moins 60 BPM.
Donc en gros,
tu peux être, si t'es à 180, tu peux être aussi à 240 ou à 120 BPM.
Tu seras plus précis avec tes deux doigts. Non, mais c'est vrai.
Arrêtez d'acheter des montres. Non, ça c'est pas vrai. Si on prend les points forts des montres, parce qu'il y en a pas. Enfin, il y en a, mais pas énormément. Ça te permet de juste déjà calculer ton kilométrage par semaine, par mois. Important. Ouais. D'avoir un tracé, c'est sympa aussi d'avoir un tracé sur une map.
Ouais, tracé GPS.
Voilà, tracé okay. GPS. Là-dessus, c'est très très fiable au niveau du tracé GPS. Et pour ceux qui aiment se balader ou voyager, tu peux importer des itinéraires et ça te fait office de boussole en fait. T'as ton itinéraire, t'es dans une intersection, ça te dit tourner à droite, tourner à gauche. Donc voilà, ça c'est très 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 intéressant et ça te permet aussi du coup de calculer le dénivelé. Donc c'est un bon tracker.
Est-ce que ça te donne tes... Moi tu vois, j'ai pas ce genre d'outil. Est-ce que ça te donne aussi par exemple ta vitesse, ton allure?
Oui, ça te donne l'allure, ouais, effectivement. C'est... Oui, quand tu cours, ça te donne ton allure.
Ça c'est pas mal, par exemple si tu fais une petite aerox, tu vois.
Ouais, ou même non, quand tu fais ton endurance fondamentale ou tes séances intenses.
En vrai, pour l'aerox ça marche pas parce que généralement...
Ah oui, t'es en intérieur, ça prend pas. Ouais, effectivement, effectivement. Mais voilà, tout ça, c'est des mesures qui sont assez fiables et assez intéressantes.
Mais tout le reste.
Ouais, mais tout le reste. Mais aussi, il faut quand même avoir un esprit critique. Enfin, c'est-à-dire, moi, j'ai déjà eu des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, j'ai fait cette montagne-là en courant. Je connais la montagne. Elle fait 600 mètres de dénivelé. La montre affichait 1200 de dénivelé. Tu vois, il faut se méfier aussi.
Mais c'est le GPS.
Méfiez-vous. Il faut mettre vos montres. Il faut mettre vos montres à jour. C'est important parce que sinon, au bout d'un moment, les données sont faussées. Donc, toutes les données allure. Dénivelé, kilométrage, durée, parce que ça te fait aussi chronomètre, itinéraire, boussole, tout ça c'est assez juste. En revanche, c'est ce point-là qui est important à comprendre, c'est l'intégration du capteur de fréquence cardiaque. Ça, c'est du bullshit.
En gros, on peut expliquer un peu comment ça marche. C'est les capteurs généralement avec une LED verte.
Ouais.
Et en gros, l'idée c'est que... Cette lumière, elle traverse ta peau et tes vaisseaux sanguins. Et comment expliquer ça simplement? En fait, tes molécules, comment ça s'appelle? L'hémoglobine, voilà. C'est cette molécule-là qui, dans ton sang, transporte l'O2. Et en gros, quand ta molécule, elle est chargée en O2, elle n'est pas de la même couleur que si elle est... Que si elle n'est pas chargée.
Elle n'est pas la même forme. Elle n'a pas la même forme.
Voilà. Et donc, du coup, la lumière ne revient pas de la même façon. Voilà. Ok. Vraiment, c'est très très très, très très vulgarisé. Et donc, du coup, quand tu fais des estimations de saturation en oxygène, de choses, tout ça, c'est comme ça en fait que ça mesure. C'est via la lumière.
Ouais. C'est comme la technologie NIRS, ça s'appelle. Near Infrared Spectroscopy. Il manque une lettre là.
Voilà, bref. En gros, c'est à peu près comme ça que fonctionnent les montres.
C'est la spectroscopie au proche infrarouge. Voilà, en français. Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent chercher un peu plus de.
Donc, ça, c'est pas sujet. Donc ça, c'est pas super fiable.
Non, mais alors le NIRS, par contre, je crois que c'est pas sur les montres. Hein. C'est sur les Moxie Monitors.
Ouais, sur les. Ok.
C'est pour calculer justement l'oxymétrie musculaire. Voilà, donc tout ça. Sur les montres, à vrai dire, moi je veux pas m'avancer sur ce sujet, je sais même pas comment ça fonctionne.
Bon, je crois que c'est la même chose.
Je pense que c'est la même chose parce que vu qu'il y a une lumière, c'est la même, ça doit être quasiment la même chose.
Après, peut-être que la technologie n'est pas aussi poussée pas aussi ouais. performante. Mais...
Donc voilà, bref. Mais
c'est la même chose.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que le capteur, déjà, faut qu'il soit ultra proche de ta peau. Ok.
Ouais.
Et dans la plupart des sports que tu pratiques, ta montre n'est pas forcément très bien serrée et il y a énormément de mouvements au niveau des poignets. Si tu prends l'exemple de la musculation ou des sports en salle, bah, tu vas tout le temps manier quelque chose avec tes mains, bouger une barre, modifier ta posture dans l'espace.
Donc, du coup, ça fait bouger ta peau.
Voilà, ça fait bouger ta peau et aussi tout simplement la montre.
Ouais, ouais.
Sans aller chercher trop loin.
Est-ce que ça donne quand même un ordre d'idée des mesures que ça donne,
alors,
ou alors même ça, c'est un ordre d'idée qui...
En fait, si tu veux, j'ai envie d'être, il faut être franc, non, ça donne pas d'ordre d'idée. Pourquoi ? Parce que sinon, il y a des personnes qui vont se dire, oui, mais ça donne un petit ordre d'idée et tout, et si c'est à 175 BPM alors que je suis dans mon canapé, peut-être que, tu vois, c'est juste. Non, vraiment, ne vous fiez pas. Si tu prends ta fréquence cardiaque avec le capteur FC de ta montre, ne te fie pas à ça. J'ai déjà vu des montres qui sont assez fiables, mais ne te fie pas à ça, c'est important. Parce que tu auras toujours une marge d'erreur qui est énorme, en fait.
Donc, autant travailler au RPE, en fait.
Voilà, autant travailler au RPE. Mais sinon, au-delà de ça, en fait, tout simplement, autant travailler au capteur de fréquence cardiaque, la ceinture de fréquence cardiaque, en fait.
Et là, du coup, la...
Ça, c'est beaucoup plus fiable.
La technologie n'est pas du tout la même.
Ouais, c'est pas du tout la même.
La technologie, en gros... J'explique un peu, tu vois, parce que c'est simple. Mais en gros, au niveau de ton cœur, t'as déjà remarqué que ton cœur, il bat tout le temps, même quand tu dors ?
Non.
Si, je te jure. En fait, en gros, c'est un peu comme si le cœur, il fonctionnait de manière automatique.
Il fonctionne de manière automatique.
Après, ton cerveau, il régule quand même des choses. T'as vu, quand t'es stressé, ta fréquence cardiaque, elle augmente. Enfin bref, des choses comme ça. Mais t'as des cellules au niveau de ton corps, ça s'appelle des cellules cardionectrices, qui en gros balancent des courants électriques et qui font que tes cellules cardiaques, donc tes cellules musculaires, viennent se contracter. Et donc, tu as cette fameuse diastole-systole, donc ton cœur se contracte.
Boum, boum.
Ton cœur se contracte et envoie le sang à l'organisme. Et donc, que fait un cardiofréquencemètre, une ceinture ? En fait, elle mesure ses courants électriques.
C'est exactement ça.
Voilà.
C'est juste, en gros, pour que ton muscle se contracte, il y a un courant électrique. Et s'il y a plus de courant électrique à la seconde, il y a théoriquement plus de battements par minute.
Donc, en gros, ça je sais pas, parce qu'il y a forcément un algorithme derrière ça, tu vois.
Oui, carrément.
Le courant, il va à telle vitesse, donc ça veut dire que... Mais bon, bref, en gros, c'est comme ça que ça marche. Ça mesure les courants électriques de ton cœur.
Déjà, c'est placé beaucoup plus proche de la partie thoracique, donc beaucoup plus proche du cœur. Donc, la dissipation d'énergie est bien moins... Il y a bien moins de chances qu'il y ait d'erreurs, parce que c'est très, très proche de l'endroit où le cœur bat. La surface en contact avec la peau est beaucoup plus grande parce que c'est quasiment en contact avec la peau sur là où il y a les capteurs, parce que tout le reste, oui, c'est une ceinture, mais c'est quasiment en contact avec la peau sur une trentaine de centimètres, donc c'est beaucoup plus fiable aussi.
Ouais.
Mais évidemment, il y a des moments où ça bug. Quand il y a un manque de batterie, des fois c'est pas très juste. Quand les piles sont en fin de vie, pareil, c'est pas très très juste. Si ta ceinture bouge ou descend au niveau de l'emplacement où elle devrait être, c'est pas très très fiable non plus. Enfin voilà quoi, c'est très fiable 95% du temps, mais il y a certaines situations où c'est pas très fiable. Évidemment, tout ça va dans l'eau aussi, donc c'est fiable pour les personnes qui font de la natation.
Ouais.
Et j'ai même envie de te dire que c'est encore plus fiable parce que on te demande de mouiller les électrodes. En fait, c'est comme des électrodes quand tu vas chez le médecin. Voilà, c'est exactement pareil. Et on te demande de mouiller les électrodes. Et quand les électrodes sont mouillées, le signal est mieux transmis. Parce qu'on sait que l'électricité va encore plus vite dans l'eau. Voilà, enfin, suffit de mettre son sèche-cheveux dans la baignoire quand t'es dedans.
Il y en a qui ont essayé, ça s'est pas bien passé.
Tu vas comprendre que l'électricité va aussi dans l'eau. Ok. Montre GPS, bien pour allure, dénivelé, kilomètre.
Pour les données GPS.
Voilà, les données GPS, fréquence cardiaque, pas bien.
Nul.
Nul, pas bien. N'utilise pas, pas bien. Non mais, je vais le répéter encore une fois, pas bien. Par contre, ceinture de fréquence cardiaque, et ne viens pas me dire que ça coûte cher quand t'as une montre Polar à 500 balles au poignet. Parce que ça coûte 80 euros, ok. Si, pas de placement de produit, mais si vous avez besoin N'hésitez pas à nous contacter. Mais le Polar H10 est très très bien. Ouais, il est utilisé en laboratoire pour des recherches scientifiques. Donc il est très 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 bien. Et ceinture de fréquence cardiaque, bien. Utilise, bien.
Bien.
Voilà.
J'aime bien.
Ok, simple. Ok, on passe au capteur de puissance Stride. Est-ce que tu connais ?
Non.
Tu connais ?
C'est les trucs, les capteurs que tu mets sur les chaussures,
c'est exactement, ça ? Exactement,
c'est ça. C'est des accéléromètres, en fait.
C'est des accéléromètres.
Ouais, c'est ça. Voilà,
c'est ça.
Fin.
Non, on va quand même débattre un petit peu. Moi, rapidement,
je sais qu'on en a un peu parlé quand j'étais à la fac. Et globalement, ça peut te donner déjà des indices de vitesse, mais aussi des indices sur ta foulée.
Ouais, oui, oui, totalement.
La façon dont tu poses le pied et tout ça.
Ah ouais, bien, intéressant, j'avais pas noté ça.
Ouais, ouais.
Oui, totalement.
Mais honnêtement, j'en sais pas plus que ça.
Et ben encore une fois, c'est comme avec tous les outils, il faut prendre avec des pincettes le retour que tu as. Ça peut te donner des idées, mais par exemple, si tu sais que ça donne le temps de contact au sol, par exemple.
Ouais, ouais. Et puis, je dirais, je pense que ça doit pouvoir te donner aussi, tu sais, l'amplitude du choc, en gros, sur ta foulée.
Ouais, carrément.
Donc du coup, après, tu peux mesurer sur du plat, sur de la pente, sur de la montée, sur des choses comme ça. Ouais.
Bon, là, on a peut-être passé un peu vite sur le Stride, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit capteur que tu mets sur tes chaussures de course à pied et qui calcule puissance.
Tout ce qu'on vient de dire.
Voilà, tout ce qu'on vient de dire auparavant. Mais ce pourquoi je l'ai noté, c'était vraiment pour la puissance, parce que c'est la donnée qui est la plus utilisable pour le coureur lambda ou pour un préparateur physique qui voudrait utiliser le Stride. Il faut savoir que d'après ce que j'ai lu et tout, et d'après ce que les personnes qui ont expérimenté m'ont fait comme retour avec ce capteur, au-delà de 6-8% de pente, c'est plus très très fiable.
Ah ouais, donc en fait,
c'est-à-dire que ça ne reflète pas la charge interne que ton corps physiologiquement reçoit, quoi.
Okay.
En gros, on va parler très brièvement de l'économie, comment ton corps dépense de l'énergie comparé à une puissance ou une allure. Et sur du 0 à 8%, c'est assez fiable. La puissance que reflète le capteur est assez juste,
okay,
par rapport à la charge interne physiologique. Mais sur la partie au-dessus de 8% de pente, si t'es pas très économique à ce gradient, au final, c'est pas très très juste. Ça te donne une donnée, mais par exemple, 200 watts à 15 degrés de pente ou 200 watts à 0 degré de pente, oui, c'est 200 watts, mais pour ton corps, en réalité, c'est pas forcément 200 watts.
Okay.
Donc ça, il faut l'expérimenter et il faut vraiment le répéter dans le temps et voir comment les valeurs peuvent être interprétées en fonction de toi et en fonction d'un large panel d'individus. Donc voilà. Mais enfin bref, la donnée la plus utilisable avec ce capteur Stride, c'est la puissance. Potentiellement sur potentiellement mieux sur des gradients de pente inférieurs à 8%. Et encore une fois, ça peut te permettre de travailler par exemple en course à pied avec la puissance critique, au lieu de travailler qu'avec la vitesse critique,
ouais.
Ça te permet d'avoir une valeur en plus, donc de travailler avec allure, fréquence cardiaque, puissance et ressenti.
Okay.
Donc en gros, si on prend les 3 P de Steven Seiler, là, perception, performance, physiologie, t'as la perception RPE, t'as deux valeurs de performance, puissance et allure. Pardon. Et le dernier, c'est la performance. Non, j'ai dit quoi ? Mec, je me suis embrouillé. Perception, performance, physiologie. Et physiologie, t'as la fréquence cardiaque. Voilà. Donc ça te permet en fait d'avoir plus de valeurs. Alors après, encore une fois, ça dépend de ce que tu fais avec ces valeurs. Si tu les analyses jamais, pas très intéressant. Et il faut les analyser correctement. On passe au prochain ?
Ouais. Moi, c'est vrai que c'est que des outils que j'utilise pas beaucoup.
Moi non plus, j'utilise pas beaucoup, mais c'est juste, je suis un peu sensibilisé dessus et à terme, j'aimerais bien les utiliser quand même. De toute façon, je le dis direct, ce podcast, on le refera quand on les aura utilisés et qu'on les aura séchés.
Au final, toi, tu utilises beaucoup l'AFC.
Beaucoup, beaucoup l'AFC.
L'AFC et après.
Et l'allure.
Ouais, voilà, ouais.
AFC et l'allure, et après, énormément.
Les infos GPS, ouais.
J'ai lu pas mal de trucs, mais encore une fois, ma pratique ne complète pas ma théorie. Donc c'est que de la théorie là, ce que je dis. J'ai lu pas mal de trucs sur le capteur Stride Et j'ai lu pas mal de trucs sur le prochain outil qu'on va utiliser, l'analyseur de lactate. Même ouais. ça, toi, t'es énormément sensibilisé à ça, quand
alors,
même.
Alors, du coup, le...
l'analyseur de lactate, comment ça fonctionne? C'est quoi?
T'en as... Est-ce que... Je sais pas si c'est le même outil, mais en gros, il y en a un que tu peux prendre au doigt et l'autre que tu peux prendre à l'oreille.
À l'oreille, je crois que c'est pareil.
C'est, aussi, la même c'est le même ouais. Ok. Bah, du coup, c'est simple. Hein. C'est à l'effort, tu viens... En gros, c'est un outil avec une sorte de petite aiguille
oui, c'est
que,
ça.
Que tu viens planter soit dans le doigt, soit dans l'oreille. Tu récupères du coup un,
une goutte de sang.
Une goutte de sang. Et du coup, ben, t'évalues le lactate, la lactatémie.
Ouais, la lactatémie dans le sang.
Donc le taux de lactate dans le sang. Et on qui n'est pas de l'acide lactique.
Oui, et qui n'est pas tout le lactate que tu produis. Là, c'est cette valeur de lactatémie que tu as suite à la prise de lactate avec l'analyseur de lactate, tout simplement, c'est la lactatémie qui est en flux. En gros, si on prend...
Qui est dans le sang. Dans le système, en fait.
Ouais. Voilà, en gros, très vulgairement, imaginez que quand tu es à l'effort, tu as un produit, on va imaginer que ce produit, c'est le lactate, on va imaginer qu'il est liquide, d'accord ? Donc, il peut aller dans toutes les parties de ton corps. Il y a certaines parties de ton corps...
Pardon.
Il y a certaines parties de ton corps qui utilisent le lactate parce que non, ce n'est pas un déchet.
Non.
Non, 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 ce n'est pas un déchet. Donc, il y a certaines parties de ton corps qui utilisent ce lactate. Donc, imaginons que tu produis 10 litres de lactate. Il y a peut-être 8 litres de lactate qui est utilisé par ton corps. Et au final, il n'y a que 2 litres qui est en flux dans le sang. Et donc, nous, avec cet analyseur de lactate, on peut... voir ce qui reste dans ton sang. Et en fonction de l'intensité à laquelle tu es et en fonction de ta capacité à recycler le lactate, il y aura plus ou moins de lactate dans le sang.
Et à quoi ça sert? Nous, on l'a testé, pareil, quand j'étais en études, c'est sur des tests d'effort sur vélo. Et en gros, notre but, c'était de déterminer le MLSS, c'est le maximal lactate steady state. Donc en gros, c'est la vitesse sur ton vélo à laquelle la vitesse max à laquelle tu peux être en ayant une concentration de lactate qui reste stable,
sans avoir d'accumulation exponentielle de lactate.
Et typiquement, à partir du moment où le lactate commence à s'accumuler. Bah, c'est que tu rentres dans un effort qui est quand même
très élevé,
assez intense. Et plus il va s'accumuler, plus tu as de la fatigue en fait, qui va s'installer.
Pour ceux qui n'ont pas les bases et pour qui ça peut paraître très abstrait, ce qui vient de dire Nathan, là, le MLSS, Maximum Lactate Steady State, tout simplement, imagine-toi que tu as une première intensité où tu recycles quasiment autant de lactate que tu en produis.
Ouais.
Donc, il n'y a quasiment pas de lactate dans le sang. Ce qu'on disait tout à l'heure, si tu produis 10 litres...
Il y en a, mais il est en état stable.
On va dire, voilà, mais il est très, très stable. Imagine-toi que vraiment, tu produis 10 litres et ton corps, il arrive à utiliser 9,5 litres. Il y a un deuxième état où tu produis toujours 10 litres de lactate. Par contre, ton corps, il n'est pas capable d'en utiliser autant. Il va en utiliser que 7 litres, par exemple. Mais c'est stable, tu as toujours 3 litres qui sont en flux. Par contre, il y a une autre intensité, la troisième intensité, où au-delà de ce MLSS, qu'on a déjà exposé avant, au-delà de cette intensité, si tu poursuis ton effort, ton corps, au final, il va plus du tout réussir à utiliser le lactate. Et tu vas voir que si tu prends des valeurs de lactatémie toutes les 30 secondes, par exemple, ou toutes les 1 minute, ou toutes les 3 minutes, ça va faire qu'augmenter.
Ouais.
Tu vas avoir au début 3,5, puis après tu vas avoir 4, puis après tu vas avoir 5,
donc,
tu vas avoir 6.
Donc tu produis plus que ce que tu utilises. Et donc ça veut dire que tu es dans une intensité que tu ne peux pas tenir sur le long terme. Et en gros, tu as de la fatigue qui s'accumule.
Pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait 3 réels, 4 réels là-dessus. Sur mon compte Insta, c'est les domaines d'intensité, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Voilà, sur l'analyseur de lactate, à quoi ça peut servir dans l'entraînement?
Typiquement, tu vois, si tu veux déterminer ta MLSS, ça te permet derrière de caler tes intensités, par exemple, pour rester à cette... En gros, si tu connais l'intensité pour laquelle tu es au MLSS, tu sais que si tu veux reculer ce seuil, il faut t'entraîner proche de cette valeur-là. proche de cette intensité-là.
Exactement. Donc, ça, c'est un petit peu abstrait. Encore une fois, si tu n'as jamais utilisé le valeur de lactate, là, le but, c'est de vous sensibiliser à tous ces outils qui existent sur le marché et que tu peux potentiellement rencontrer avec un préparateur physique. Mais en gros, à l'entraînement, on ne va pas se mentir, tu ne vas pas partir courir ou aller faire du vélo avec ton analyseur de lactate dans la poche. Ou alors, tu peux le faire sur, entre guillemets, des séances clés. Une séance que tu répètes dans le temps, avec si possible les mêmes conditions, avant, pendant et après le test, après la séance, pardon. Et tu prends des valeurs de lactate et tu vois la cinétique de ce lactate, dans le temps de séance en séance. Et tu peux donc voir une évolution en fonction de ce que tu recycles ou de ce que tu produis comme lactate. Donc voilà. Et c'est très utilisé sur des testings physiologiques. En fait, pendant l'entraînement, c'est pas très utilisé, sauf chez des sportifs d'assez bon niveau. En gros, ils contrôlent le lactate pour voir s'ils étaient à la bonne intensité. Tout simplement, s'ils voient que le lactate dérive progressivement, tu as de plus en plus d'accumulation, et que le but, c'était de rester à ce MLSS.
Par exemple.
Voilà.
Et c'est que t'en as trop fait. Ouais.
Voilà, t'en as trop fait. Et du coup, c'est un indicateur.
Objectif.
Ça contrôle. Ça te dit, mec, t'as poussé un peu trop loin. Voilà.
Outil suivant.
Moxie, c'est ça ? Il nous reste deux outils qui sont encore plus poussés que le lactate et qui sont, je pense, encore moins utilisés. On va juste vous expliquer ce que c'est. Parce qu'on a déjà travaillé ensemble une fois avec ces outils.
Ouais, c'est vrai. Au séminaire, on s'est rencontrés.
C'était l'histoire d'amour.
Voilà, on a utilisé le capteur Moxie.
Donc,
d'ailleurs, c'était vraiment intéressant, ça.
Bah, ça, c'est super intéressant. Le Moxie Monitor, là, c'est une marque, hein, mais il y en existe plein d'autres.
Ça marche avec la lumière.
C'est la spectroscopie au proche infrarouge, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. Donc là, comme Nathan l'a expliqué, en fonction de la forme de l'hémoglobine, elle ne renvoie pas de la même manière
la lumière
qui lui a été envoyée. Et du coup, ça arrive...
Voilà, ça mesure la vitesse de retour de la lumière, en gros.
Voilà, ça mesure la vitesse de retour de la lumière. Et derrière, il y a un algorithme...
Qui calcule
et qui sait, à combien de pourcents ton sang est
saturé en oxygène.
Parce que exactement.
Du coup, c'est ça le principe d'un capteur Moxie, c'est de mesurer en gros
l'oxymétrie musculaire.
Donc ça veut dire l'oxygène que tu as dans le sang.
Ouais, c'est ça.
Donc on peut expliquer vite fait les tests qu'on a fait.
Bah,
c'est que ouais. En gros, donc c'était avec
le soleil fait tellement plaisir.
C'était avec Sean de Upside Strength, donc qui donnait un séminaire à Keep Up à Genève. Et en gros, le test qu'on a fait, c'est qu'il nous a mis un capteur Moxie et derrière, il fallait expérimenter. Donc de mémoire, on a fait des tractions, c'est ça ?
On a fait des tractions, on a fait aussi sur du vélo.
On a fait des tractions, moi j'ai fait des tractions et du coup, j'avais le capteur Moxie sur les biceps.
Oui, sur les biceps, oui.
Je sais pas si c'était les biceps ou les avant-bras.
Biceps.
Je pense que c'était les biceps et du coup, je suis parti à froid sur un max rep. D'ailleurs, j'ai dû faire 20 reps, je pense, un truc comme ça.
Aïe, 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 trop chaud.
En fait, c'est intéressant de voir qu'au début, tu as une valeur de repos qui est assez stable. J'ai fait mes 20 reps et puis en 30 secondes à peu près, tu reviens à une valeur qui est assez stable. Mais là, elle était supérieure à ma valeur d'avant, simplement parce que avant, je ne me suis pas échauffé. Et du coup, c'est normal qu'après avoir fait ces 20 tractions, la valeur est augmentée, cette valeur stable, simplement parce qu'il y a eu cet effet d'échauffement. Et là, du coup, je me suis dit, putain, c'est ouf quand même parce que ça met vachement en lumière l'effet de l'échauffement. T'as un truc objectif qui fait que, ah ouais, là, du coup, ton corps, il vient amener plus d'oxygène dans cette région-là. C'est parce que tu vas utiliser ce groupe musculaire. Donc voilà, c'est important. Donc déjà, je me suis dit, c'est cool parce que ça met en lumière l'importance de l'échauffement. Mmh, et puis, un autre truc qui est intéressant, là, on rentre dans de la physio un peu poussée. Je vais essayer de l'expliquer de manière simple.
Le but, c'est de vous sensibiliser. Si vous ne connaissez pas ces outils, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en discute ou même fais tes recherches par toi-même. Il y a plein de trucs sur le net.
Ce qui était cool de voir, c'est que, comme je l'ai dit, en 30 secondes, tu étais revenu à une valeur stable. Mmh. Et en fait, ça, dans la physiologie du corps, t'as plusieurs filières qui te permettent de créer des molécules d'énergie. Okay ? Ces molécules d'énergie, elles sont nécessaires pour que ton muscle se contracte.
pour produire l'énergie.
Voilà, exactement. Donc si tu n'as pas ces molécules d'énergie, ton muscle ne se contracte pas. En gros, c'est ça. Et il y a une de ces filières qui marche avec un composant qu'on appelle la phosphocréatine. Et en fait, on dit que ces stocks-là, ils sont refaits à 50% 30 secondes après que tu as arrêté l'effort. Et en fait, ben, il se trouve que ces stocks de phosphocréatine sont corrélés avec cette saturation en oxygène. Et donc, en fait, ben, tu la vois, cette resynthèse de ces stocks de phosphocréatine qui sont faits très rapidement puisque tu as ton oxygène
qui revient
très rapidement en 30 secondes. C'est vraiment le temps que ça prend. On lance un chrono et tu verras en 30 secondes chrono, bam, tu es à cette valeur cette valeur stable en fait. Donc tu as récupéré d'un point de vue oxygène. Après voilà, quand tu t'entraînes, il n'y a pas que le côté oxygène, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Mais bref, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de voir ça et de dire ah ouais, en fait, il y a vraiment cette corrélation phosphocréatine oxygène quoi.
C'est ouf comment chacun sélectionne ses informations, parce que tu vois, moi je me souvenais tellement pas de ça.
Ah ouais, moi
parce
je m'en
que
souviens,
moi je suis dans les sports d'endurance, du coup je me suis tout souvenu de ce qu'on a fait sur le vélo.
Ouais.
Sur le vélo, genre, c'est tout dans ma tête, je sais précisément tout ce qui s'est passé, mais ça, je m'en souvenais plus, et toi, vu que t'es intéressé par ça,
ouais, bah ouais, c'est vrai.
Mais du coup, bah, moi, je vais vous parler de mon expérience sur le vélo. En gros, Nathan l'a bien expliqué, mais l'oxymétrie musculaire, c'est la saturation de ton sang en oxygène. Au repos, là, si on se met un oxymètre de pouls au bout du doigt, on est aux alentours de 97 et 99% de saturation. Donc,
ouais.
Quasiment toute l'hémoglobine contient de l'oxygène.
Et pendant l'effort, bah forcément, ça chute.
Bah voilà, pendant l'effort, on utilise cet oxygène pour produire l'énergie.
Globalement, si juste, tu vois, je reprends l'effort un peu muscu, quand t'es à l'échec, t'es proche de zéro.
T'es quasiment à zéro. C'est impossible d'être à zéro.
Je me souviens que sur les capteurs, c'était pas possible d'atteindre zéro.
C'est
mais voilà, en gros, quand t'es à l'échec, ça veut dire que t'es à zéro. Il y a plus d'oxygène dans ton sang au niveau du muscle.
En tout cas, la cinétique de l'oxymétrie montre que ça dégringole et ça atteint une valeur minimale.
Mais en 30 secondes, t'as vu, c'est revenu. Vas-y, excuse-moi de t'avoir coupé.
Enfin bon, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fonction de ces différentes intensités qu'on parlait juste avant avec le lactate et que tout est corrélé, c'est que en fonction de l'intensité où tu es, tu vas pouvoir maintenir des valeurs soit stables et élevées d'oxymétrie. Exemple, au lieu d'être à 99% de saturation, bah tu vas être à 70% de saturation, mais pendant 2 heures, ça va être stable.
Ouais.
Mais tu vas utiliser de l'oxygène, donc t'es pas à 99%. Deuxième intensité dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu comme le lactate en fait. Et ben, au lieu d'utiliser que 70%, tu vas utiliser 50%. Donc tu vas être à 50% de saturation, mais tu vas te rendre compte qu'au final, et ben, si tu restes longtemps dans cet effort, tu vas juste utiliser plus d'oxygène, mais tu vas rester à 50%. Ou alors tu vas utiliser de plus en plus d'oxygène. Donc ta saturation va diminuer, mais très progressivement. Il va falloir 1, 2 heures, 3 heures, et puis au final, tu vas avoir un décrément de 2, 3, 4, 5%. Donc au lieu d'utiliser 50%, tu vas utiliser 52, 55%.
Un décrément, t'es sûr c'est français ?
Bah oui.
Ok. Ah, je sais pas.
Un décrément. Oui, totalement, totalement. Ah si, ça j'en suis sûr.
Incrément, décrément, on dit ?
Bah oui.
Ok, pour moi le décrément, c'est genre des bouteilles de crément, tu sais. C'est le mec qui dit ça alors qu'il boit pas une goutte d'alcool.
Mais bref, du coup, t'as un décrément qui est progressif. Donc ça va se faire progressivement dans le temps. Et à contrario, sur la dernière intensité, bah déjà, dans les 30 secondes, tu commences, t'as ton oxygène qui dégringole d'un coup sec et qui va se retrouver à 20%. Et si tu continues comme ça, bah le décrément, au lieu qu'il se fasse sur 2-3 heures, il va se faire sur 10-15 minutes, même pas 5 minutes. Et au lieu d'être à 20%, tu vas te retrouver à 5% de saturation. Donc en gros, tu utilises 95% de ton oxygène que tu as à disposition. Et du coup, c'est ouf de voir que tous les systèmes sont interreliés, qu'en gros, tu as une intensité où tu maîtrises tout, tout est parfait. Une deuxième intensité où, au final, si tu maintiens cette intensité longtemps dans le temps, ça va dériver progressivement vers le désordre. Et une troisième intensité où, dès que tu es dans cette intensité,
bam, ça chute.
Le désordre, il est instantané, quoi. Et tu sens vraiment que, bah, en gros, ton corps, son but, c'est de rester en vie. Donc, il va te dire stop l'intensité ou je te fais mourir.
Donc, c'est grâce à ce genre de mesures qu'on peut déterminer nos trois domaines d'intensité que tu as parlé,
voilà, sur les réels. En fait, c'est dommage que... Enfin, c'est dommage. Là, on pourrait vous faire un podcast, pardon, quasiment que sur les domaines d'intensité, mais c'est les bases fondamentales de l'entraînement. Si tu comprends ces trois intensités-là, tu comprends comment t'entraîner, et selon moi, c'est un peu la base de comprendre comment s'entraîner, tu vois. Et ça fonctionne aussi en musculation, parce qu'au final, toi, t'as montré que si tu vas à l'échec, tu es très proche de ton zéro en saturation en oxygène.
Ouais.
Mais si tu restes assez loin de l'échec, tu vas pas descendre aussi bas au niveau de la saturation en oxygène.
Non, bah non.
Tu vas utiliser moins d'oxygène. Ouais, ça marche pareil.
Ton corps, il sait pas ce que c'est, hein, de pédaler sur un vélo ou faire une traction ou un squat. Au final, c'est la même chose pour lui.
C'est un stress. Dernier. Non, pas dernier. Si.
C'est dernier.
Dernier. VO2 Master.
Ça. Pff,
tu connais?
Je connais rien.
Non. Très brièvement, parce que je n'ai jamais utilisé cet outil pour le coup. J'en ai entendu vaguement parler, mais en gros, c'est un masque que tu mets devant ton nez et ta bouche et qui calcule les échanges ventilatoires. Donc pareil, tu as le volume d'air inspiré. Ouais. Oui, tu en as déjà entendu parler, c'est sûr.
Mais en fait, même, on l'a testé en cours.
Ok, bon, bah voilà, tu peux peut-être mieux en parler que moi. Mais,
non, mais vas-y.
En gros, on a le volume d'air inspiré, le volume d'air expiré, on a les échanges ventilatoires, donc... l'oxygène et
le CO2,
le dioxygène et le dioxyde de carbone,
le
pardon, qui est relâché lors de l'expiration. Donc ça te donne toutes ces informations là.
Oh, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé d'un truc.
Ouais, bah tu le diras après.
Là, parce que le...
Non, attends, je finis.
Non, mais attends. Via ces échanges gazeux,
oui,
tu peux mesurer aussi la dépense calorique. Et je crois d'ailleurs que c'est la méthode la plus fiable pour mesurer la dépense calorique.
Ok, alors ça, je connais pas du tout.
Sur le côté gazeux.
Ouais, je connais pas du tout.
Moi non plus, mais je sais que...
Ok, bon, bah j'irai regarder, mais je savais pas. Mais du coup, oui, ça calcule en gros, par exemple, tout ce qui se passe au niveau ventilatoire. Oxygène, CO2, fréquence respiratoire, volume d'inspiration et d'expiration. Voilà, ça peut te donner un peu plus d'informations sur la respiration. Je suis en train de me former sur la respiration, donc on va pas... s'engager dans un terrain un peu glissant pour le moment. Voilà pour le VO2 Master, c'était assez rapide. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous contactez Sean Seal Upside Strength. Lui, il vous en dira plus que nous.
Du coup, attends, ça te donne des infos en gros relatives à ta VO2 Max ?
Oui, totalement.
Et du coup, bah, je pense que tu peux parler de la VO2 Max. Dans l'entraînement d'endurance, non ?
Ouais, c'est un peu sensible comme sujet. Non, c'est pas sensible, mais...
Moi, j'ai l'impression que aujourd'hui...
C'est trop surcoté.
Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que, moi, de mon œil extérieur, c'est qu'aujourd'hui, pendant des années, on a parlé de VO2 Max. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas ça qui régit le tout. Et qu'au final, juste en rester sur les domaines d'intensité...
Tu comprends déjà énormément de choses.
Bah, je pense que t'as l'essentiel, en fait.
En fait, si tu veux, moi, je comprends le principe de VO2 Max. Juste,
c'est quoi la VO2 max déjà?
Juste la VO2 max, c'est le volume d'oxygène inspiré que tu vas transporter et utiliser pour produire de l'énergie. Voilà.
C'est ça. Et au final, à haut niveau, en vrai, tous les athlètes, ils ont la même VO2 max.
Voilà, exactement. C'est juste leur économie
ce qui va faire la diff, ouais, c'est donc peut-être l'économie. Et aussi, il y a le moment où tu vas lâcher les chevaux, tu vois, dans un
ouais, un peu le mindset.
Tu vois, une course de vélo, ok, hein, au final, sur le papier, on a tous le même niveau parce qu'on a tous la même VO2 max.
En gros, on a tous le même moteur.
Et vu que pendant des années, on s'est basé que sur la VO2 max, bah, au final, c'est ce que ça voulait dire, c'est que tous les athlètes du Tour de France, au final, ils ont tous le même niveau. Sauf qu'à un moment, tu vas lâcher les chevaux, dans une côte, tu vas taper un sprint et tu vois, ça va être ce moment décisif-là qui fait que tu vas faire la différence. Et je parle du vélo, mais en fait, c'est pareil sur une course de trail.
Oui, totalement.
Donc voilà, en fait, c'était ultra réducteur, je trouve, de parler que de VO2 max. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'on l'utilise moins.
Bah, en fait, aussi, c'est que c'est une valeur, mais tu peux tellement pas l'utiliser à l'entraînement. C'est juste un marqueur, en fait. Tu peux pas l'utiliser à l'entraînement. le lactate, ok, c'est chiant à utiliser, mais tu peux le faire de temps en temps. Le Moxi, c'est absolument pas chiant à l'utiliser et tu peux le faire régulièrement. Le VO2 Master, c'est un peu plus chiant, mais sur des tests, bah du coup, tu vois, ça te donne la VO2 Max et ça peut être intéressant de l'utiliser de temps en temps à l'entraînement. Je sais que par exemple, sur le marathon du Mont Blanc.
Mais est-ce que tu l'utilises à l'entraînement ou plutôt sur du testing?
Le VO2 Master?
Ouais.
Plutôt sur du testing, ouais, carrément. Voilà, mais je sais qu'il y a une course qui a été faite, le marathon du Mont Blanc, où il y a un gars qui a fait toute la course avec le VO2 Master.
Okay.
Toute la course, les 4-5 heures de course, il l'a fait avec le... Voilà, je te laisse imaginer la transpiration dans la bouche. Mais bref, en gros, pour moi, c'est juste qu'à l'entraînement, tu peux pas l'utiliser. Je vais courir à 50% de VO2 max, ok.
Déjà, même tous ces outils, en vrai, il faut quand même déjà pratiquer à un certain niveau, je pense, pour que...
Non, ça, je suis pas d'accord avec toi.
Ah ouais?
Ouais, moi, je trouve que, justement, ce serait intéressant pour la population générale... d'utiliser ces outils juste pour, en fait, qu'ils se rendent compte de ce qui se passe dans leur corps. Ouais. Tu vois, parce que c'est... Tout le monde pourra te dire, ah bah, je cours vite, c'est difficile. Mais au niveau de ton corps, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vois que là, c'était facile. Le lactate, c'était comme ça. La ventilation, c'était comme ça. Et l'oxymétrie musculaire, c'était comme ça. Ouais, regarde, on a augmenté ton allure. T'avais moins d'oxygène dans le sang. T'avais plus de lactate. Et la ventilation, elle a augmenté. Et puis on a augmenté, on est allé à fond, et t'as vu le lactate, et il était à balle, il y en avait plein, l'oxymétrie, elle était tout en bas, et la fréquence respiratoire, elle était au max, tes échanges ventilatoires, ils étaient au max.
Oui.
Et ça permet de, en gros, un petit peu objectiver tout ce qui est subjectif.
Ouais, ouais je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est l'éducation physiologique.
Ouais, c'est ça, bah c'est ce que je vends en fait.
Ah, je sais.
C'est ce que je vends, l'éducation à la physiologie. D'ailleurs, réserve ta place maintenant.
Ouais, exactement.
Pour
ouais.
déterminer tes domaines d'intensité.
Ouais, non mais je vois très bien, ok.
Enfin bref, on a un peu fait le tour là-dessus.
Ouais.
On passe aux outils de mesure pour la salle ou pas?
Moi je me demande si on ferait pas une deuxième partie.
Ouais, un deuxième podcast.
Parce que j'ai peur que ça perde les gens. Donc,
ouais.
je pense qu'on peut conclure cet épisode-là.
Je voulais juste rajouter un truc, parce que si on continue pas, ça me prend 5 minutes à le dire. Et c'est par rapport à la fréquence cardiaque et par rapport aux zones d'entraînement qui sont prédéterminées...
En fonction des zones cardiaques,
voilà.
De fréquence cardiaque.
Non, en fonction de la montre que tu achètes. Tu sais, quand tu achètes une montre, tu vas faire un sprint à bloc, tu vas monter à 200 BPM et ça va te déterminer des zones par rapport à ça.
Ok.
Arrêtez de vous baser... à ces zones de fréquence cardiaque de l'application. C'est faux. Vraiment, c'est comme la fréquence cardiaque au poignet. Ce n'est pas bien. C'est faux. Ce n'est pas personnel. 70% de fréquence cardiaque pour toi, pour Nathan, pour moi, c'est pas la même intensité.
Ah, ça c'est sûr.
Non, mais c'est pas la même intensité. Ça se trouve qu'à 70%, moi je suis à 130 BPM, 140 2. BPM en zone 2. Et ça se trouve que toi, 70%, t'es déjà passé dans la deuxième intensité dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, ne vous fiez pas à ces zones cardiaques. J'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit « Oh, Gianni, j'ai regardé sur ma montre, j'ai fait 1h30 en zone 5. » T'es au courant que la zone 5, c'est 45 minutes max.
Mais, mais du coup, ça veut dire aussi, même si tu le fais, tu vois, typiquement, moi, j'ai mon cardio-fréquence-mètre sur l'application Polar, il te donne aussi des zones d'entraînement en fonction de la fréquence cardiaque. Ça veut aussi dire que même ces zones-là, elles ne sont pas fiables.
Ah mais c'est ça dont je parle, ça c'est pas fiable.
Voilà.
Ça c'est okay. Pas fiable.
Oui mais parce que tu parlais uniquement des montres au poignet. Mais ça veut dire que même si tu la prends avec un cardio fréquence mètre.
Ah oui
en gros les zones d'entraînement avec basées sur la fréquence cardiaque, elles sont pas justes.
Parce que c'est des pourcentages déjà d'une fréquence qui est déjà maximale, qui a été testée potentiellement. Voir si t'as jamais fait une fréquence cardiaque maximale, c'est par rapport à ton poids, ta taille, ton sexe et ton âge. Donc voilà, c'est pas fiable du tout.
Et puis surtout, la fréquence cardiaque, elle varie en fonction de plein de choses. Elle est quand même corrélée à tout ton système nerveux et donc en fonction de ton humeur, ton niveau de stress, de fatigue, ton alimentation, ton hydratation, bam, ta fréquence cardiaque, elle peut varier selon tout ça. Et donc, aujourd'hui, t'es à 150 BPM et le lendemain, tu seras pour le même effort à peut-être 180. Moi, j'ai dit un truc...
ouais, c'est une aberration, mais c'est pour que vous compreniez.
Mais voilà, c'est juste pour illustrer, ouais. Donc voilà, ça varie beaucoup trop et c'est ce qui fait que du coup c'est pas assez fiable pour l'entraînement en endurance. En tout cas, pas que la fréquence cardiaque.
Non, si, alors attends, en fait, c'est ça que j'essaye de dire tout à l'heure. En gros, non, mais en fait, on s'est mal compris. En gros, voilà, c'est moi qui me suis mal exprimé. Les zones qui sont préfaites dans les applications.
Ouais.
Peu importe que ce soit pris à la montre, t'as déjà bien compris qu'à la montre, ça, c'est nul, ça fonctionne pas. Et si tu l'as pris au cardiofréquencemètre, c'est pareil. Quand c'est prédéfini dans l'application, ça, c'est faux. Okay. C'est pas par rapport à toi-même, c'est un algorithme, c'est faux, ok.
Par contre,
les zones de fréquence cardiaque, si tu fais un testing physiologique, une éducation à la physiologie, ou bref, peu importe, et que derrière, ton coach t'a déterminé des zones d'entraînement en fréquence cardiaque
ça marche.
Par rapport à toi, ça c'est juste.
Ah ouais.
C'est simple.
Même si ta fréquence cardiaque, elle varie en fonction de tout le côté nerveux.
Ça, c'est, on va dire, c'est au coach d'avoir... l'esprit critique pour se dire ok là il a dérivé, ok là il était pas en forme. Exemple concret pour qu'ils comprennent, je prends jamais la voiture. Si je pars de chez moi et que je vais courir et que je fais ma zone 2, je vais être tranquille, je vais être aux alentours de 135-138 BPM, ok, ultra light. Voilà, j'ai une fréquence max à 205, donc pour moi c'est light. Je dois avoir un SV1 à 150, tu vois, 155, donc c'est light. Ok, je prends ma voiture, je fais 30 minutes de route, il y a les bouchons, je gueule dans tous les sens parce que je déteste la voiture et que c'est jamais un stress auquel je suis exposé. Je sors de ma voiture, je fais une zone 2, bah je vais être tout de suite à 140, 143. Alors c'est pas beaucoup de plus, mais c'est pas ma zone 2 de base. Et pourtant, je suis quand même en zone 2.
Ouais.
C'est juste que ce stress-là, je sais que bah voilà, j'ai eu un stress en plus. Et voilà. Et pareil sur la dérive, si tu maintiens cette zone 2 pendant 5 heures, peut-être qu'à la fin, t'as commencé à 140 BPM.
Mais à la fin, tu seras...
À 155. Mais peut-être qu'au final, t'es toujours en zone 2, en fait.
Mais est-ce que... Mais c'est dans ce sens-là. Travailler uniquement avec la fréquence cardiaque, du coup, c'est peut-être pas suffisamment fiable. Et donc, tu travailles derrière avec du RPE et de la vitesse.
Du ressenti, de la vitesse et de la fréquence cardiaque, en prenant en compte bah, tous ces phénomènes physiologiques qu'on connaît nerveusement et tout.
Mais donc, pour toi, travailler uniquement avec la fréquence cardiaque, ça peut être suffisant.
Ça peut être suffisant. Je te prends l'exemple du trail.
T'irais pas corréler ça avec un RPE et un...
Ah si, si, avec et... un... Ah non, non, ah,
voilà,
oui,
quand
oui,
je te dis que la fréquence cardiaque.
Bah, pour moi, c'est impossible d'avoir que la fréquence cardiaque. Ou alors, le mec, il est vraiment pas...
Pourquoi c'est impossible?
Bah, non, mais, enfin, genre, quand tu fais un effort, t'as bien un ressenti d'effort, quand même.
Oui, mais moi, je te demande juste... Toi, tu le prends pas. Le mec, juste, il se base sur sa zone qu'il a déterminée. Ah, là, je dois être à...
Non, ça fonctionne pas, ça.
Voilà, donc il faut quand même... Donc, travailler uniquement avec la fréquence cardiaque,
uniquement,
ça marche pas.
Uniquement, ça fonctionne pas.
Il faut que ce soit corrélé avec un RPE et dans l'idéal, une vitesse ou une allure.
Et dans l'idéal, une vitesse, une allure. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, les 3 P de Steven Seiler. Performance, allure. Physiologie, fréquence cardiaque. Perception, bah, ressenti d'effort, RPE.
Bon, bah, on voulait parler uniquement des outils de mesure et au final, on a même parlé entraînement en endurance.
Ouais.
Voilà. Mais je pense que c'est bien qu'on garde l'autre partie pour un autre podcast. Ouais. Les outils de testing, on va dire un peu.
Attends, mais je voulais revenir là-dessus, mec. C'était trop bien. En fait... C'est intéressant ta question. Est-ce que ça, c'est...
Travailler qu'avec la fréquence.
Ouais, c'est intéressant. En fait, pour moi, ça me paraît impossible. Mais dans un sens, j'aime bien prendre le trail parce que c'est ultra complexe. Dans un sens, le trail, t'as la météorologie qui rentre en jeu.
Ouais, t'as le terrain.
T'as la pente. Le terrain et la pente, c'est différent, c'est... Le gradient, c'est la pente, et le terrain, ça peut être caillou, terre,
sable,
boue, mouillé, pas ouais, mouillé, ouais. Instable, pas instable.
Ouais, il y a du sable. Hein.
Oui.
Instable.
Instable.
Instable. Tu veux dire le Bozu, c'est ça? Les fentes sur Bozu. Bientôt, tu vas voir, ils vont faire des trucs instables sur Bozu avec des assiettes.
Et jongler avec en fente.
Un bâton du diable, tu sais.
Enfin bref, le trail c'est un bon exemple pour ça parce que t'as plein de paramètres.
Ouais.
Donc ta fréquence cardiaque est influée par plein de paramètres.
Ah ouais.
Mais ton ressenti aussi est influé par plein de paramètres parce qu'il y a des gens, ils vont être sur un gradient de pente à plus de 15%, ils sont super bien, mais tu les mets sur le plat, ils aiment pas. Et puis t'as un autre mec de 0 à 15%, il est trop bien, mais dès que ça passe 15%, mec, les jambes elles sont gorgées, c'est trop dur. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bah ouais.
Et du coup, si tu travailles qu'avec l'AFC, c'est impossible. Mais tu ne peux pas travailler avec une allure. C'est impossible.
Ouais, ouais.
Même une allure ajustée à la pente, oubliez, c'est impossible. Ça veut dire qu'il faut que ta monte, elle te renvoie. Le gradient de pente dans lequel tu es actuellement.
Ouais.
Et l'allure à laquelle tu cours dans le gradient de pente. Et que toi, t'es tous tes chiffres en tête à te dire, ma zone 2 sur ce gradient de pente, elle est de temps. Non, mais mec, ça fonctionne pas.
Donc du coup, tu travailles au...
ressenti, corrélé à la fréquence cardiaque. Et là, du coup, t'as le plus de choses. Après, par expérience, je peux te le dire, si tu cours souvent aux mêmes endroits, tu peux regarder ton allure.
Ouais.
Tu sais qu'à cet endroit-là, en zone 2, je passe à tant d'allures. Et même, potentiellement, au lieu de faire des endroits bien précis, il faut faire au kilomètre. Par exemple, tu sais que sur ce kilomètre-là de cette montée, en général, je le monte en 8 minutes au kilomètre. Bah voilà, je sais que c'est en zone 2, moi...
T'es lent, hein.
Ah bah ouais, je suis lent.
Je...
quand c'est à 10 à 15% de pente... Ça va quoi quand t'es à 135 BPM. Bon bref, on s'écarte un peu du sujet de base.
Non, on s'écarte pas, c'est...
Mais on pourrait en parler des heures de ça, on pourrait en parler des heures. D'ailleurs, on va faire un podcast là-dessus, c'est dit. On va faire un podcast là-dessus. Faut-il utiliser la fréquence cardiaque ?
Allez.
C'était un podcast un peu plus sur les sports d'endurance. J'espère que ça vous aura plu. On vous fera un autre podcast sur les autres outils plutôt dans la musculation.
Ouais.
Parce qu'il y en existe aussi des dizaines.
Dans la musculation au sens large, hein, mais
oui.
C'est pour que les gens comprennent.
Mmh, très très large. Dans la préparation physique.
En salle, absolument.
T'as quelque chose à leur dire ou à me dire que je suis chiant parce que je parle trop?
Bah non, mais t'es passionné, c'est ça qui est bien. Tu vois, c'est comme... Hey, vous, normalement, vous avez regardé le podcast de Kay Suisse. C'est incroyable, Kay Suisse, tu vois, quand il parle, et que c'est la passion qui prend le dessus, il parle tellement fort.
Putain, c'est ouf. Ça donc, se voit tout de suite.
Donc là, c'est pareil. De toute façon, vous êtes en train d'écouter deux passionnés en train de parler de ce qui les passionne.
Ouais.
Donc voilà. En tout cas, pensez, comme d'habitude, à lâcher un petit 5 étoiles sur ce podcast. C'est ça qui nous aide pour le référencement. C'est la récompense. Un petit commentaire. Si vous avez des questions, balancez-les soit sur Spotify ou la plateforme d'écoute que vous utilisez, ou alors directement un DM sur Insta. Et puis surtout... le partage, ok, c'est vraiment, nous on fait ça gratuitement.
C'est du partage en fait ce qu'on
et
fait.
Et voilà, c'est du partage, donc partagez notre partage, ça fera un maximum de partage, ça fera partage au carré. Voilà. Merci, ciao.
Partage au carré.